France Inter.
C'est la bande originale avec Leïla Kadou Boudadi, avec Lisa Delmoitié, Emma Beaujean, Tom Baldetti, Tanguy Bassureau, Aldela, Daniel Morin, et notre invitée Isabelle Autissier. Isabelle Autissier, ouais. Qui vient non pas pour, enfin oui, parler un peu de voile, d'aventure, de, mais surtout de la mer, surtout de cette bande dessinée que vous avez signée avec Zelba. Est-ce que ça se fait de mettre, d'envoyer une bouteille à la mer, ou est-ce que c'est de la pollution, Isabelle Autissier?
Non, parce qu'elle est récupérée justement, voilà, par Zelba, donc elle, oui, va pas rester dans la mer.
Mais celui ou celle qui envoie la bouteille à la mer, est-ce qu'il sait, oui, qu'elle va être opée?
C'est parce que j'ai un tel message à passer que ça vaut le coup quand même. Okay, ouais,
justement, il est taquin, vous allez voir.
Quel est votre rapport à la mer, les uns et les autres? Est-ce que vous avez peur, parce que certaines personnes ont peur de la mer, ou au contraire, tu te sens, ou le mal de mer, que sais-je, ou est-ce que tu te sens à l'aise, Lisa Delmoitié?
Non, j'adore l'eau. J'adore l'eau, non, c'est vrai, j'adore boire de l'eau, j'adore être dans l'eau. Et plus la mer est intense, plus j'aime bien.
Donc tu es plutôt océan que
plus
mer.
Plus océan, ouais. J'ai l'impression que ça me soigne.
D'accord, très bien.
Ouais. Je pense qu'elle a raison. Hein.
La musique des vagues, c'est le rythme.
Et surtout, ouais, elle en a besoin.
Elle a besoin de vous. Ouais. Emma, Beaujean.
Ouais, pareil. J'ai l'impression que mon cerveau, il se nettoie quand je nage. Mais vraiment, j'ai l'impression de respirer quand je suis sous l'eau. J'ai appris à nager avant d'apprendre à marcher. J'aime trop ça.
Oh, wow. Bah, je déteste l'eau.
Ah ouais.
Pour moi, c'est de...
Ne parlons plus du bar, pardon.
Ah, c'est nul. Non, je vois ça comme une source de danger, c'est-à-dire que moi je vivrais plutôt dos à la mer que face à la mer en temps normal. Non, mais c'est vrai. Et j'ai essayé de combattre cette crainte-là en allant au Glénan prendre des cours pour arriver à naviguer, par exemple, ou pour bien comprendre que la mer était plus forte que moi. Mais de me dire toujours, je la regarde avec beaucoup de respect, mais avec beaucoup de distance aussi.
Après, c'est
de crainte,
parce que moi, parfois, peut-être, je prends des risques.
Moi, j'ai peur. Ouais.
Mais ce qu'il y a, c'est que je suis passé par tous les états dont tu parles.
La sobriété?
Non, alors déjà.
Non, ça c'est.
Ne pas aimer la mer, le premier rapport. Étant né au bord de la Méditerranée en Égypte, mais étant malade en bateau, en venant, en migrant en France, d'un coup, j'ai le sentiment d'avoir le mal de mer et d'aimer l'eau, de continuer de grandir au bord de la mer. Et après, ça s'apprend, je crois, ça s'appréhende en faisant du bateau.
S'apprivoise.
On commence par un optimiste, on verra après ce qu'on fait. La plongée sous-marine, ça aide à ne pas avoir peur de ce côté noir de
ce
qu'il y a au fond.
Est-ce que c'est pas plus mal d'avoir un peu peur?
Oui, oui.
Il faut pas avoir peur, mais il faut respecter. Vous l'avez dit tout à l'heure, hein, la mer, elle est plus forte que nous.
C'est ça.
Mais comme la nature.
Absolument, comme la nature d'une manière générale. Donc il faut savoir s'y abandonner, on n'est pas les plus forts. Hein.
Tanguy Passureau, quel est le rapport breton que tu es avec la mer?
J'ai grandi au bord de la mer, forcément, oui, j'en ai vraiment besoin. Je suis assez malheureux à Paris, à vrai dire.
Ça explique
beaucoup de choses.
Moi aussi, j'en ai besoin. La Manche, notamment, en tant que Normand, mais c'est nécessaire. J'ai besoin de ça, ouais.
Mais je crois qu'on est le pays qui a le plus grand nombre, ce qui est dit dans la BD, c'est ça?
Oui, alors de kilomètres de côte, parce qu'il faut compter tous les petits îlots du Pacifique. Théoriquement la deuxième nation maritime du monde.
En attendant d'être la première.
Voilà, mais ça nous donne une responsabilité en même temps.
C'est ce qui est évoqué dans le livre. Daniel, toi, quel rapport tu as avec l'eau, la mer, l'océan? Non,
mais moi, je peux pas partir en vacances si j'ai pas vu sur la mer et si je passe pas une partie de la journée.
Et donc, tu auras Leïla dans le dos, qui elle aura dos la mer.
Ouais, je parlerai à Leïla en vis-à-vis.
Moi, je vais à la campagne.
Alors, quel a été votre premier rapport, Isabelle, à la mer? Parce que quand on est navigatrice, est-ce que ça veut dire que forcément, on a aimé l'eau?
Oui, enfin, je suis née à Paris 12e, donc c'était pas écrit. J'ai un papa savoyard, une maman savoyarde et un papa auvergnat, donc c'était pas écrit non plus. Mais on allait en vacances au bord de la mer. Voilà. Et moi, la première fois qu'on met sur un petit dériveur, j'ai 6 ans, peut-être, quelque chose comme ça. Et je trouve ça incroyable, quoi. Je trouve ça magnifique. Ça bouge, ça fait un peu peur, effectivement.
Est-ce que vous étiez libre d'aller où vous vouliez, ou vous étiez à la queue leu-leu avec une petite corde attachée sur le dériveur qui était en face?
Les petits canetons.
En fait, j'étais avec papa-maman, on avait, ça s'appelait un vaurien à l'époque, c'était un petit dériveur en bois, on pouvait être 3 ou 4 dessus. Ouais. Donc j'étais avec papa-maman ou mes sœurs aînées, quoi.
Moi, j'ai fait de l'Aloha 27.
Ben voilà.
C'était plus grand déjà.
Oui, c'est plus grand. 27, c'est 27 pieds, donc c'est plus grand, c'est presque 10 mètres.
J'ai commencé par un optimiste et après l'Aloha 27.
Ah, directement.
Avec le ski.
Oui, mais l'Aloha, il y avait
Avec la MJC, parce que moi je rends hommage au MJC où j'ai appris plein de trucs aussi au bord de l'eau. Tu te fais des potes, tu apprends, tu. Et puis, on était trop fiers de sortir le ski et de faire.
Et sur un bateau ensemble, ça resserre les liens quand même, hein.
T'es obligé de t'entendre.
Ensemble.
T'es obligé. Ah oui, non,
c'est obligatoire. Hein.
Ouais. Ah oui, vaut mieux
arriver à bien s'entendre, en tout cas au moins se respecter.
Le binôme en question, c'est aussi Isabelle Autissier et Zelba pour cette bande dessinée, non pas originale, au Futuropolis chez Stock. Une bouteille à la mer, on en parle jusqu'à 12h30, mais d'abord votre plus grand fan. Et là, c'est Hold de la fan d'Isabelle Autissier.
Je suis fan d'Isabelle Autissier, navigatrice, ingénieure et femme, bref une surdouée. C'est vous la première femme à faire le tour du monde toute seule. Moi je fais déjà un tour de rond-point et je m'ennuie, je fais la gueule. Et vous êtes là pour une bouteille à la mer, une BD écolo, un cri d'alarme amer. Ça pourrait être triste mais les dessins sont là, faits par une dessinatrice qui file la pêche Zelba. Merci à tous.
La pêche Zelba.
Ouais, je suis fan de vous, vous êtes si inspirante. Votre nom résonne comme un espoir que tout le monde chante. Autissier.
Oh yeah. Ah ouais.
Ma mère m'a dit Bouboule, fais-toi couper les cheveux. Je lui ai dit ah, très drôle, je fais ce que je peux. Je suis même allé en Turquie pour en rajouter. Je voulais être beau devant Isabelle Autissier. Autissier. J'ai lu en entier une bouteille à la mer. En seulement 3 jours, je crois que je peux être fier. Enfin, je parle du titre, une bouteille à la mer. Je démarre la lecture, je vais y aller pépère. Autissier. Moi aussi j'aurais pu être navigateur. Je connais pas le froid, je connais pas la peur. Mais bon, je connais pas la voile non plus. Le seul bateau que j'ai pris, c'est le trop tard dans la rue. Autissier. Oh, je suis fan d'une bouteille à la mer et je crois que ce serait cool si les vins nature pouvaient finir comme ça. Vous êtes notre invité, on vous fera pas de mal. Bienvenue à vous avec la bande originale.
Bravo! Quelle audace! Hold
up! Au Folies Bergères, le 1er avril prochain.
Très bien. Alors, cette bouteille à la mer que vous jetez à la mer, dans cette fiction, dans cette bande dessinée, et comme par hasard, la bouteille est retrouvée par Zelba qui va signer la BD dessinée, cette bande dessinée, qui est une... Alors, il y a des road movies. Là, on est dans une road bande dessinée.
C'est-à-dire un reportage,
que vous allez déambuler et rencontrer surtout des personnes importantes.
Bah, c'est ça l'idée, c'est d'aller voir les gens qui savent et qui font. Qui savent, donc il y a des gens qui s'occupent du climat, de la biodiversité, des négociations internationales sur l'océan. Et puis, il y a des gens qui font, c'est les associations, les fondations qui sont sur le terrain. Et donc, voilà, c'est à la fois le constat, mais le constat que ça, ça fait peur et ça fait mal. Donc, il faut aussi se dire que...
Il y a aussi des bonnes nouvelles.
On peut faire quelque chose. Il y a des bonnes nouvelles.
C'est ça.
Il y en a eu une récemment, c'est que finalement, le traité sur la haute mer vient d'être ratifié, va entrer en vigueur. Donc, on va pouvoir commencer à protéger la haute mer. Donc ça, c'est une bonne nouvelle.
C'est une bande dessinée politique ?
Forcément. Forcément, parce que quand on s'intéresse au bien commun, c'est la politique. Et le bien commun, c'est l'océan. Et il n'y a pas d'humain en bonne santé sur un océan qui est mort. Donc l'océan nous concerne tous. Donc oui, c'est politique.
Alors c'est politique au sens général du terme, pas spécialement en termes d'engagement, même s'il y a une bulle, un moment où on dit « je vais voter pour telle couleur politique », en l'occurrence. Mais c'est presque... Dommage que ce genre de valeurs, comme le respect des femmes, comme l'antisémitisme, comme la tolérance, comme la lutte contre le racisme ou la protection de la planète, aient une couleur politique. Il faudrait que ce soit des valeurs qui soient humaines, que la politique se mêle d'autres choses, du social, de l'économie, et qu'on n'ait pas spécialement une couleur politique collée à l'idée de sauver la planète.
Évidemment, ça concerne tout le monde. Je pense que c'est l'inverse. Je pense que c'est les partis politiques qui, eux, érigent des règles et nous oblige à les considérer d'une manière ou d'une autre.
Parce qu'ils écoutent des lobbies.
Oui, bien sûr, là, sous l'influence des lobbies ou pas.
Bah, le lobby de la pêche, voilà. il m'a scié dans la bande dessinée.
Ah bah c'est
affolant.
Non mais c'est bien sûr. Bien
c'est
sûr.
Affolant. C'est affolant, c'est mafieux.
Non mais ce qui est
on
affolant,
parle souvent de Claire Nouvian et des pressions qu'elle peut recevoir.
Menaces.
C'est à Bruxelles que ça se passe pour beaucoup et ils ont 15 fois plus de lobbyistes que les ONG qui essayent de défendre le bien commun parce que les ONG elles font pas pour elles, elles font pour tout le monde. Alors que les lobbyistes.
Non mais le paradoxe, pardon, c'est qu'ils vivent de la mer, des océans, des animaux, des poissons. Enfin, je veux dire, c'est quand même la source de leur.
C'est leur matière première. Ouais.
Et c'est leur matière première.
Sauf
qu'il faut distinguer
à court terme
le pêcheur autonome, l'individu, l'artisan entre guillemets, et la pêche industrielle avec des filets
des pratiques,
et des mailles trop petites qui ramassent d'ailleurs des trop de choses qu'ils rejettent à la mer. C'est-à-dire, ils ruinent les fonds, ils tuent des espèces, ils raquent et ils rejettent en disant « ça, j'en veux pas ».
Ça, c'est la grosse différence entre les industriels et les artisans. Les artisans, ils ont un terrain de jeu, ils ont un jardin, et ils ont intérêt à ce que leur jardin proche, parce qu'ils ne peuvent pas aller ailleurs, reste prospère. Par contre, les industriels, le jour où le poisson ne donne plus, ils iront investir dans des usines de chaussettes.
Exactement.
Ce n'est pas leur problème, c'est un problème de capitalisme mondial. Et donc, on fait dans la pêche, et le jour où il n'y aura plus assez de poisson, on fera dans autre chose. Et c'est ça la grosse différence.
Ce qui est affolant, c'est que ce que fait en termes de résultats économiques et de pêche un bateau en une journée équivaut à une année de plusieurs pêcheurs, c'est ça ?
Oui, c'est beaucoup ce qu'on...
Ça pourrait permettre de faire vivre, en tout cas, plusieurs pêcheurs pendant un an.
Absolument, et c'est beaucoup ce qu'on a discuté avec le professeur Gasquel qu'on va rencontrer. Lui, il a une belle philosophie, il dit c'est pas forcément mal de pêcher.
Non.
Ok, on peut manger un peu de poisson, pas trop quand même, hein. Mais autant faire en sorte que ce qu'on pêche, ça provoque... une façon de vivre et des possibilités de vie pour le maximum de personnes. C'est-à-dire qu'effectivement, entre un bateau industriel qui pêche des milliers de tonnes sur lequel il y a 10 bons hommes, et puis de la pêche artisanale où on va avoir des centaines de personnes, et puis des villages qui vont vivre parce qu'il va falloir des boulangers, des instituteurs,
toute une vie.
Toute une vie. On retrouve le côté social.
Et puis c'est important de réglementer, puisque même maintenant, les pêcheurs amateurs doivent signaler ce qu'ils pêchent. Parce que c'est important de dire ce qu'on prend à la mer et de l'indiquer.
Et oui, parce qu'un pêcheur plaisancier, ça va, mais des dizaines de milliers de pêcheurs plaisanciers, ça commence à représenter pour l'océan un prélèvement important.
Et l'océan est un lieu de transport. Il y a énormément... D'abord, il y a ces gros paquebots. Alors, les gros paquebots de croisière sont une source de pollution infernale.
De moins en moins.
Il y en a de moins en moins ou ça pollue de moins en moins ?
Ça pollue de moins en moins.
Alors, par tête de pipe. Par contre, il y en a de plus en plus. Il y a de plus en plus, enfin, moi je l'ai vu dans des endroits paumés.
C'est des immeubles entiers et qui tournent H24 pour. Ils sont obligés de brûler pour la clim, pour l'électricité, pour. C'est fou, quoi. Et ce qui est fou, pardon, c'est que. Ce sont des prix extrêmement abordables et qui attirent du monde. Et ils ont besoin d'ailleurs de dire la semaine de vacances sera, je ne sais même pas, à 200 ou à 500. Voilà. Et donc, ils ont besoin d'avoir des milliers de personnes
qui embarquent là-dessus. C'est comme l'aviation low cost. C'est-à-dire qu'on te fait quand même la possibilité de voyager pour rien.
Il y a maintenant des gens qui passent plusieurs mois sur ces bateaux parce que ça leur coûte moins cher.
Ça leur coûte moins cher
que d'avoir des appartements.
Alors, ce que j'apprends dans votre bande dessinée, c'est lorsque vous rencontrez Olivier Poirot-Darvor, qu'il parle justement des transports et qui compare le transport maritime, ferroviaire et routier. Ça, c'est incroyable.
Oui, alors c'est vrai qu'au kilo transporté, la mer, le bateau, c'est évidemment très bien, puisque sur un bateau, on charge des centaines de milliers. Le problème, c'est qu'on est obligé de faire tourner beaucoup de bateaux, parce que aujourd'hui, dans ce qu'on achète aujourd'hui en France en moyenne, il y en a quand même 90% qui vient de Chine ou pas loin, quoi. Donc du coup, ça fait énormément de transport. Et du coup, ça fait quand même une pollution importante.
Oui, mais comment on fait ? Parce qu'on dit qu'il faut de plus en plus exploiter le transport par la mer, ou même fluvial. On essaye de développer ça et de l'encourager. Si après on dit, mais s'il y en a trop, ça ne va pas non plus.
Fluvial, c'est bien parce que ça évite des camions. On enlève des camions. Donc ça, c'est,
et ferroviaire aussi.
Ferroviaire aussi, ça c'est bien.
Non, mais par la mer aussi, on empêche des avions cargo.
C'est un mouvement global. C'est-à-dire que si tu évites
par la mer, c'est notre consommation qui est excessive. Et donc, c'est plutôt là que ça empêche. C'est pas individuellement, encore une fois, le transport maritime, à la tonne transportée, c'est pas beaucoup de gaz à effet de serre. Mais c'est des centaines de milliers de tonnes, et là, ça commence à poser
et,
ça.
Et mais non, mais Isabelle, vous dites que ça... Pardon, mais moi, d'avoir lu la BD, ou alors j'ai rien compris.
Ça t'arrive souvent. Hein.
Non. Je me dis que le transport maritime est une très bonne chose pour la planète, la pollution, puisqu'il y a un tableau qui est dessiné, que vous cautionnez donc, qui dit que les kilomètres parcourus avec un litre de carburant pour une tonne de marchandises, vous prenez cette valeur-là de comparaison, on n'arrive qu'à 35 kilomètres par la route, par uniquement 213 par les voies, la voie ferrée, et par 243 par la voie maritime. Donc là, je comprends que au litre et à la tonne, le bateau transporte beaucoup plus et va beaucoup plus loin, donc c'est super, mais attention à la pollution. Et là, sur l'émission de CO2 pour chaque tonne de marchandises, il y a 76 kilos pour le camion, 14 kilos pour le train, et seulement 12... Pardon, j'ai dit kilos, c'est grammes. 76 grammes, 14 grammes et 12 grammes pour le bateau. Donc même le bateau pollue moins que tous les autres.
Sauf si tu surconsommes.
Ramener au kilo, c'est vrai.
Parce qu'il faut bien comparer ce qui est comparable aussi.
Oui. Non mais c'est parfaitement vrai. Ramener au kilo. Après, combien de kilos on transporte? C'est la deuxième phase.
Mais non, mais parce que Daniel a raison. Si vous ne transportez pas par le bateau, comment vous allez transporter par avion? Donc c'est pire.
Non mais bien sûr, ça c'est carrément pire. On est d'accord.
Donc moi, pour moi, je ne dis pas que c'est la solution idéale. Je dis que c'est la moins grave.
C'est la moins mauvaise.
Ouais, voilà. Donc arrêtez de râler, Isabelle.
Le problème, c'est qu'on ne pose pas les vrais soucis. Parce que les comparaisons, mais c'est qu'est-ce qu'on transporte, pourquoi est-ce qu'on le transporte et est-ce qu'on a besoin d'en transporter autant.
Ça, c'est encore autre chose.
La réalité, elle est là. Ça fait partie de l'équation, quand même.
Non, mais après, vous ne pourrez pas empêcher le commerce et le marché. On est dans l'échange mondial.
Le bois, par exemple. Le bois, les Chinois achètent le bois sur pied, comme ça, en France et en Europe, en fait, et viennent,
ils le transportent
jusqu'en Chine pour le travailler, et on le rachète, et il refait le tour du monde deux fois. En fait, voilà, c'est ça qui est pas possible.
On pourrait le faire ici, faire des meubles, hein,
par exemple.
Ça coûterait plus cher.
Ça coûterait peut-être un peu plus cher, mais au final, les dégâts de l'effet de serre, les dégâts de l'écroulement de la biodiversité et de la vie autour de nous vont nous coûter beaucoup, beaucoup plus cher.
Vous savez très bien, Isabelle, que des gens vont préférer acheter quelque chose de pas cher tout de suite. Ils voient pas beaucoup plus loin. Et moi, je me mets dans ces personnes-là, évidemment.
Oui, mais je sais bien, mais je pense qu'il faut vraiment essayer de lutter toutes nos forces contre ça, parce que sinon, ça va nous coûter beaucoup, beaucoup.
Et là, je rejoins Leïla, qui est très autoritaire et qui serait pour l'interdiction et pour les pénalités. Et elle a raison.
Qu'est-ce que tu as besoin d'aller acheter des trucs qui viennent de Chine, quoi? Enfin, la majorité.
Tu ne sais pas que ça vient de Chine.
Non, on ne parle pas d'ameublement. On parle pas d'ameublement, mais on parle de choses qui sont complètement inutiles au quotidien, à la vie, qui sont des choses qu'on peut acheter comme ça sur un coup de tête.
Mais ça, c'est un raisonnement personnel.
Quand tu vois la livraison en moins de 24 heures de Chine et de saloperies. Quand tu vois, et j'espère le moins de monde possible, mais quand tu vois le résultat de cette boîte, c'est honteux, c'est de la surconsommation. Voilà. Généralement, il y a même les trois quarts des gens qui achètent ne les portent pas. Ouais, parce que c'était 1 ou 2 euros.
On les porte deux fois.
Voilà. Et puis, de toute façon,
en général, un t-shirt, on le lave deux fois, il est pourri. Donc,
faites comme moi,
pour le prix de 3 t-shirts, on pourrait acheter quelque chose de bien qui soit.
Une bouteille à la mer, c'est vraiment dans tous les sens qu'il faut voir cette expression qui a donné le titre à cette bande dessinée, qui est à la fois drôle aussi, parce que vous en prenez pour votre grade, hein, dans cette BD sous la plume et le dessin de Zelba, avec l'enquête, finalement, c'est une sorte de documentaire, de reportage d'Isabelle Autissier. On en parle jusqu'à 12h30, mais d'abord voici Lisa Delmoitier. Bravo. Toi, Lisa, t'aurais pas fait une BD comme ça?
Non, je réfléchis. Et c'est vrai que ça me tente parfois de prendre le large, mais est-ce par amour pour l'océan ou ras le cul de la terre? Hein, je sais jamais. Qu'est-ce que vous fouillez, Isabelle? Comment savoir si ton choix est motivé par la passion ou par défaut? C'est comme quand t'assistes à certains mariages. Parfois, tu sens l'étincelle entre les tourtereaux. Puis parfois, tu vois le mec ou la meuf qu'a choisi ta pote et tu te dis, bon, c'est vrai qu'elle avait marre de son ex. Voilà. Enfin, un mariage de 3 jours dans les pouilles, ça fait cher la fouite quand même. Et vous, Isabelle Autissier, quand vous fouillez... Ah oui, pardon. C'est gentil. Quand vous fouillez... c'est pas 3 jours dans les pouilles, mais il n'y a que des ou. mais des mois seuls en mer, puisque vous êtes la première femme à avoir fait le tour du monde en voile, en solo. Ouais. Et c'est incroyable. C'était en 1991, année de ma naissance. Très bon instinct sur ce coup-là, Isabelle. Vous avez fui la catastrophe. C'est comme les animaux qui se barrent dans les montagnes quand ils sentent un tsunami arriver. Mais je vais pas vous inonder, enfin, je suis propre depuis mes 14 ans. Sauf si vous me faites rigoler. Non. Évidemment, à force d'être au large, vous constatez la fragilité de nos océans et à quel point l'activité humaine les abîme, la surpêche notamment, on l'a dit. Moi, j'avoue, je mange pas mal de poissons, quand même. Enfin, pas tout ce qui est barre, dorade ou cabillaud. Hein. Je vois déjà les commentaires. rien, c'est du racisme anti-blanc. Ben oui, voilà. Je déteste les poissons blancs. C'est vraiment le pire Kinder surprise au monde, quoi. J'ai l'impression de bouffer du plâtre avec, oh surprise, une mini épée dans la glotte. Bon. Mais moi, par exemple, je suis une grande mangeuse de sardines. Tom, je crois que... Le problème, c'est que... Putain, je suis beauf.
J'adore.
Arrête là. Non, le problème, c'est que la sardine, ben, elle est victime de surpêche. Sa biomasse a été divisée par 3 en 10 ans, ce qui impacte l'entièreté de son écosystème. Et outre la pêche, ce qui menace nos océans, c'est la pollution aussi. Franchement, avec tout le plastique qu'on déverse dans la flotte... Ouais. J'arrive pas à croire que je dois payer pour refaire mes nichons, quoi. C'est-à-dire, je veux pas juste recycler, j'ai plein de pots de yaourt que j'ai nettoyés. Il y a moins de... Le plastique, c'est une catastrophe et on n'est pas prêt de s'en sortir puisque, encore en août dernier, l'Assemblée des Nations Unies n'a pas su se mettre d'accord sur sa limitation. Mm. Le problème, c'est les gros pays producteurs de pétrole comme le Koweït qui nous voient nous détourner l'énergie fossile pour les combustibles plus écolos. Résultat, leur survie dépend du plastique, donc ils poussent. Alors, moi, je suis convaincue que Barbie était sponsorisée par Total. Voilà. Life in Plastic is fantastic. Ouais, on va dire ça une dorade. Le mec qui représentait le Koweït aux Nations Unies, par exemple, a dit « Non, mais il ne faut pas limiter le plastique, il faut limiter la pollution de plastique. » Et ça, c'est un raisonnement, c'est incroyable. C'est dans le top des arguments. Après, le problème, ce n'est pas le port d'armes, c'est ceux qui s'en servent. Le problème, ce n'est pas le bord de l'alcool, c'est d'être sous. Attends, mec, non. Cela dit, vous restez optimiste, Isabelle. La BD que vous co-signez avec la dessinatrice Zelba est avant tout un message d'espoir. Il faut continuer à se battre. Hein, pas le choix, de toute façon, parce que pas d'eau égale pas de douche. Hein, hashtag not all Daniel Morin. Voilà. Et dans cette bande dessinée, vous partez à la rencontre d'une multitude de gens qui œuvrent pour protéger nos océans. Il y a une biologiste, un professeur d'écologie, la directrice de Sea Shepherd. Bref, que des gens inspirants. Alors, merci pour l'inspiration depuis 1991, année de ma naissance, autrement appelée le début de l'apocalypse.
Merci. Elisa Delmoitier, son spectacle Remontada est sur francetv.fr.
Parmi toutes les rencontres dans ce road bande dessinée, Une bouteille à la mer que vous signez Isabelle Autissier avec Zelba chez Stock, il y a Françoise Gaël qui est la voix de l'océan et qui parle d'une espèce de tétard avec une bouche d'un côté et un trou de balle de l'autre et qui peut sauver la planète.
C'est le poisson fesse, quoi.
Qui fait 2-3 mm, c'est ça?
Pas son cul.
Bon, oui, mais c'est ça qui est génial. En fait, et c'est ça la recherche fondamentale. C'est-à-dire que les chercheurs, on se dit, quand on voit alors les titres de thèse et tout, on se dit, mais c'est franchement, c'est nul, ça sert à rien, qu'est-ce que c'est que ce truc? À quoi sert notre argent? Et ben si, heureusement qu'il y a des gens qui s'intéressent à des bestioles de 1 mm, parce que d'abord.
Le tunicier.
Les tuniciers, voilà, qui sont toute une famille d'animaux marins qui sont indispensables à l'écologie marine, au système global marin, quoi.
Expliquez donc, pourquoi?
Et ben parce que ces petites bestioles vont être mangées par les autres et que elles ont un rôle dans l'écosystème elles-mêmes, elles régulent des quantités de
elles filtrent l'eau.
Voilà, elles filtrent l'eau, elles gardent tous les micro-particules de plancton et ça leur permet de grandir et après c'est dans la chaîne écologique, hein, elles vont être à leur tour mangées par d'autres, etc. Donc voilà, donc chacun a sa place dans ce brave monde et y compris dans l'océan, quoi.
Alors on découvre que l'importance de la largeur des mailles des filets, finalement à quelques millimètres on peut sauver des espèces entières.
Oui, bien sûr. Ben, ça, c'est un combat qui date. Moi, j'ai fait ce boulot-là. Mon premier boulot, c'était d'être ingénieur des pêches et de travailler avec les professionnels de la mer. Et c'était un combat de leur dire, ben, il faut agrandir les mailles des filets, même parfois, oui, de quelques millimètres, parce que, par exemple, ça va permettre de passer d'une espèce où on pêche en dessous de la taille de reproduction, donc on n'en reste pas beaucoup de chance, à au-dessus. Pour 50% par exemple de la population.
Et vous dites que les expériences faites, non seulement ils ont mieux pêché, mais ils ont mieux gagné leur vie, puisque les poissons étaient plus gros, qu'ils avaient le temps de grandir, de se reproduire, et qu'on n'y trouvait que des avantages finalement. Il n'y avait aucun inconvénient, parce que certains auraient pu dire, on a peur d'en attraper moins, parce qu'ils vont passer à travers les mailles du filet justement.
Oui, alors c'est vrai, il y a toujours un moment de transition qui est un petit peu compliqué. Il y a quelques années par exemple de transition. Entre le moment où on va décider d'augmenter la maille du filet et le moment où ça va réellement produire des effets. C'est là que, effectivement, un peu d'argent public peut aider les pêcheurs à les soutenir. Et ça, c'est normal. Mais c'est vrai que, parce que l'inverse est vrai aussi, plus on met de bateaux de pêche avec de plus en plus de filets, de plus en plus de chaluts, plus on diminue le stock de poissons et en gros, plus on pêche, moins on pêche. Parce qu'au bout d'un moment, on surpêche et donc là, Et ben, c'est ce qui s'est passé en France. Hein. Dans les années 70, 80, 90, on a surpêché. Ben, qu'est-ce qu'on a vu ? C'est qu'au bout d'un moment, les pêcheurs ont mis la clé sous la porte parce qu'il n'y avait plus assez de poissons. Moi, je le sais. Je suis arrivé à La Rochelle en 80. On pouvait traverser le port à pied quasiment d'un bateau de pêche à l'autre. Aujourd'hui, il reste quoi ? 10, 15 malheureux bateaux de pêche parce que, voilà, parce qu'ils n'y arrivent plus, quoi. Donc, c'est ça qui est terrible.
Et ça s'est repeuplé depuis ?
Quel est l'avenir, c'est ça, oui.
Alors, ça s'est un peu arrangé parce que l'Union européenne a quand même pris des règlements assez drastiques. Et effectivement, il y a un certain nombre d'espèces sur lesquelles ça commence à aller mieux. Mais il a fallu faire le chemin inverse et donc ça a pris du temps, quoi. Entre les deux, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu suivre.
Tout à l'heure, nous recevrons Alexia Barrier, que vous connaissez.
Absolument.
Voilà, que l'on avait eu au téléphone pendant le Vendée Globe, et qui est venue dans la bande originale, accompagnée d'une équipe internationale 100% féminine. Elle se lance en novembre prochain dans la tentative du record.
Toute l'équipe qui vient, là.
Corps du monde à la voile en équipage sans assistance, sans escale pour le trophée Jules Verne. Mais d'abord, voici Tom Baldetti.
Oh. Bravo. Bonjour tout le monde, tout le monde va bien. Bonjour Isabelle, enchantée.
Bonjour.
Vous êtes navigatrice, c'est un honneur pour moi de rencontrer quelqu'un qui a consacré une partie de sa vie à traverser les mers, les océans, les tempêtes, les vagues, à dompter un élément aussi dangereux et imprévisible qu'est l'eau. J'ai tellement de questions. Est-ce que vous avez le permis bateau ?
J'ai dû le passer il y a très longtemps, mais c'est pas très utile en fait. Ce qui est utile, c'est plutôt de regarder l'océan et de le comprendre.
Mais pardon, il n'en faut pas pour un voilier.
Non.
Je croyais que j'étais en pleine chronique, je suis vraiment désolé.
C'était Tom qui est les mardis et mercredis. Bravo Tom.
Il m'en reste 5. Bâbord, c'est à gauche ou à droite ? C'est à gauche, ok. Est-ce que l'équivalent de à vol d'oiseau en navigation, c'est à nage de poisson ? Qui vit dans un ananas dans la mer ? Poséidon, il est cool dans la vraie vie ou pas ? Et ça veut dire quoi, souquer les artimuses ? Je suis content que vous ayez la référence.
Ça, c'est poétique, ça. Hein
C'est
Alain
Chabat, surtout.
Je sais pas ce que ça peut vouloir dire.
Pardon, coupez-moi si je me trompe, mais vous adorez l'eau, quoi. Encore plus que Jean-Claude Van Damme, j'imagine. Vous êtes certainement mieux placé que lui pour savoir que si on continue comme ça, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Moi aussi, j'aime l'eau, majoritairement dans le pastis. J'espère que dans 20-30 ans, il y en aura encore, sinon je serai obligé de le boire pur, quoi. J'aime l'eau quand elle se boit et j'aime l'eau quand j'ai pied. Sinon, j'ai un peu peur de l'eau, quoi. J'ai même le mal de mer, alors que je suis pas dans la mer. J'ai déjà fait du pédalo, j'ai pas aimé. Je crois que j'ai même le mal de lac. J'ai bien aimé cette blague. Moi, je fais partie des gens privilégiés qui ont déjà eu l'occasion de traverser des océans, mais dans des avions, quoi. Moi, ce que j'ai aimé dans ma traversée de l'Atlantique, ce sont les plaids et le plateau repas. Et le fait que j'ai pu voir Forrest Gump, parce que dans tous les longs courriers, il y a Forrest Gump. Ce que j'ai préféré, c'est que c'est moi qui ai voulu changer de continent, c'est moi qui ai décidé quand, qui ai décidé pourquoi et qui ai décidé comment. Parce que beaucoup de gens dans ce monde doivent quitter le leur contre leur gré.
Ouais.
Pendant un an, moi j'ai travaillé pour une association qui s'appelle Utopia 56. Je bossais dans une antenne qui devait loger des MNA, des migrants mineurs non accompagnés, qui pour beaucoup d'entre eux avaient dû traverser la Méditerranée dans des conditions plus que pénibles. Je m'étais lié d'amitié avec un jeune qui avait quitté l'Érythrée et avait atteint la France un an et demi après. En étant passé par beaucoup d'étapes, en ayant frôlé la mort plusieurs fois, été esclave en Libye et traversé la Méditerranée en Zodiac. Il m'a fait l'honneur de me raconter son périple, mais dans toute son histoire, il a oublié de me dire ce qu'il avait pensé de Forrest Gump. On n'a pas tous le même rapport à l'eau. Pour certains, c'est un grand terrain de jeu. Pour d'autres, c'est un truc bleu qu'on survole pour changer de pays. Pour les cachets effervescents, c'est de l'acide. Pour les poissons, c'est la maison. Et pour beaucoup, c'est une ultime épreuve, parfois fatale. Je trouve ça dingue que l'eau soit si vitale et mortelle à la fois. Protégeons les mers, les océans et les gens qui les traversent. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend des hommes, des femmes et parfois des enfants. On a beau tous être sur la même planète, j'ai pas l'impression qu'on soit tous dans le même bateau. Merci d'avoir écouté.
Bravo.
Sur scène, mardi, mercredi à la Scala, à Paris, à Cannes, ce sera le 5 octobre, à La Rochelle, le 11 octobre, chez Leïla, et à la Grande Motte, le 14 octobre.
Oui. Avant de recevoir Alexia Barrier, on va parler musique, parce qu'il y en a de la musique dans la bande dessinée, La Bouteille à la Mer.
Si ma ligne de vie venait à se casser,
Dominique.
J'aimerais pour finir avoir encore le temps.
Musique évoquée, celle aussi de Jean-Sébastien Bach. Il y a même Mireille Mathieu aussi qui passe. Bref, la musique dans la vie d'Isabelle Autissier.
Ah ouais,
je sais pas.
Ah.
Si... Oh.
En sonnerie de téléphone, je pense que c'est pas mal.
Au réveil.
En tout cas, tu décroches. Est-ce qu'on écoute ou pas de la musique lorsque on navigue seul Mathieu, sur un bateau? On va commencer avec vous en 78, Isabelle Autissier. Et là, je suis choqué.
Pourquoi?
Bah, on aime la nature, on aime ce qui est naturel.
Tu t'attendais à un chant d'oiseau?
Et là, en tout cas, avec des véritables instruments. Et on est dans l'informatique, dans l'électronique.
C'est un ingénieur, attends, Isabelle.
Oui, voilà. Puis c'était la période, la pleine période Baba. On écoutait ça dans les
tours
étudiantes.
Non, c'était pas Baba, Kraftwerk.
Non, mais on écoutait. C'est vraiment ce qu'on écoutait dans les tours étudiantes avec des bougies allumées. Et on partait et on délirait. Et voilà, on était dans
cette. C'était les années drogues,
Radioactivity.
Donc 78 années de drogue, on a bien compris. Vous sortez de l'École nationale supérieure agronomique de Rennes avec un diplôme d'ingénieur agronome spécialisé en halieutique. Donc on est déjà dans le monde de la mer, tout simplement. Avec quelle envie à ce moment-là?
Mon idée, c'était qu'il fallait absolument que je parte de Paris et que j'ai un boulot au bord de la mer. Donc j'avais repéré ce truc-là, je m'étais dit, bon, ça c'est pour moi. Et effectivement, ça m'intriguait, même la vie des pêcheurs, qu'est-ce qui se passe sur un bateau, voilà. Donc, j'étais très, très heureuse de ça. Et puis après, des premiers boulots avec les pêcheurs, c'est vrai que je suis allée pas mal en mer avec eux et que c'était assez, assez fascinant quelque part.
Et le contact avec les pêcheurs?
Ben, ça se passait bien. Alors au début, donc il voyait arriver une fille. Alors vous savez, les filles, ça porte malheur sur les bateaux. Hein. Donc j'avais intérêt à ce qu'on pêche bien quand j'étais là, parce que sinon c'était de ma faute, parce que j'étais là.
Ah waouh.
Mais après,
il y a d'autres malédictions à part les filles, parce que le théâtre, c'est donc les lapins.
Ouais, ben en
le
bateau
vert.
Aussi et le ver aussi.
Ah non, le lapin sur le bateau. Ça vient du bateau.
Les cordes. Mais enfin voilà.
Les deux viennent du bateau. Les bateaux sont jamais peints en vert. Enfin, ça porte malheur.
Est-ce qu'il y en a d'autres?
On prononce jamais le nom de lapin sur un bateau.
Parce que le lapin vivant attaquait les cales et faisait les cales et creusait dans le bois et faisait couler les bateaux.
C'est l'histoire.
Donc vous êtes arrivé déguisé en lapin vert et ils se sont dit vraiment non.
Mais non, après ça se passait bien parce qu'en fait il faut les écouter un peu, raconter leurs histoires de pêche et puis moi je rajoutais toujours une petite touche un peu plus scientifique quand ils disaient bah oui mais ça c'est peut-être à cause de ça et ça et finalement on s'entendait bien, on discutait bien, ouais, c'était marrant.
1987, Isabelle Autissier. La voix de Janis Joplin. Vous écoutez beaucoup de musique sur le bateau?
Alors, j'écoute de la musique et souvent, mon truc c'est de laisser les gens m'offrir ce qu'ils ont envie que j'écoute à bord. Et ça, c'est super parce que c'est n'importe quoi finalement. Effectivement, ça peut passer de Janis Joplin.
N'importe quoi, c'est éclectique.
Mais en tout cas, à chaque fois que j'écoute un truc, du coup, je me dis, bah tiens, c'est un tel qui me l'a offert. Il a eu envie que j'écoute ça quand j'étais en mer. Et du coup, c'est un lien qui est vraiment sympa.
C'est ce que racontait Violette d'Orange cet été à La Rochelle, justement, Francofolie, qu'elle était partie pour son Vendée Globe avec une sorte de playlist composée par tous ses copains. Et que c'était une façon de traverser en musique et de traverser avec les copains comme s'ils étaient à bord, en fait.
Ben oui, c'est ça qui est bien.
87, ces paroles, c'est votre premier bateau que vous construisez vous-même. Qui s'est noyé, c'est ça?
Il s'est ouvert les vannes. Non, je suis partie faire la mini transat, une course avec un autre bateau, et ce bateau, parole, tout seul, par beau temps, au port de La Rochelle, a coulé sans explication. Donc ma seule explication, c'est qu'il était trop triste que je l'ai abandonné.
C'est un suicide de bateau.
Et donc c'était un bateau en acier de 10 mètres qu'effectivement j'avais fait de mes petites mains le soir et le week-end. Et alors il a fallu le sortir de l'eau, tout s'échouer. Alors j'avais ma vie à bord parce que je vivais à bord.
Et vous n'avez pas soupçonné que quelqu'un rentre dans le bateau parce que c'est pas fermé à clé en plus les bateaux.
Ouais, enfin c'est facile à ouvrir, c'est théoriquement fermé. Mais non, on n'a rien trouvé. Pas de vanne qui aurait été ouverte. Méchamment ou quoi. Donc c'est un grand mystère. Donc voilà, moi j'ai pensé que c'était un chagrin d'amour.
L'abandon, absolument. Et vous participez à la mini transat, une course en solitaire. Vous terminez troisième à bord d'écureuil Poitou-Charentes, que je le dise. Et ça marque votre entrée dans le monde de la course large, en fait.
Ah ben oui, c'est une surprise autant pour les autres que pour moi, en fait, parce qu'on est 53 concurrents. Moi, je suis pas trop fait de course avant. Il y a un seul truc que j'ai fait bien, c'est que j'ai travaillé la météo.
Ah.
Et c'est ça qui va faire que effectivement, ça va super bien marcher. Et à l'arrivée, bah, je suis troisième. Waouh! Alors je me dis, bah, c'est génial. D'abord, je me suis éclatée pendant cette course. Je me suis vraiment fait plaisir. Puis ça a l'air de marcher. Et donc, c'est ça qui veut
vraiment m'importe. Au commandement de peur?
Non, parce que en plus c'est quand même bon là c'est on traverse l'Atlantique par l'Alizée, donc c'est pas les grosses tempêtes. On est en fait je vais apprivoiser petit à petit aussi cet élément qu'est l'océan. Je vais commencer par naviguer sur des petits bateaux, puis de plus en plus grands, et puis au début j'ai fait un petit tour en Bretagne, et puis après je vais de plus en plus loin, et voilà, et on accumule l'expérience, et finalement on sent. Tout à l'heure vous disiez c'est chez les poissons, mais c'est aussi chez moi la mer. Enfin, je me sens bien, je me sens chez moi quand je suis en mer maintenant.
1991. Through these fields of destruction, baptisms of fire. Des paroles qui malheureusement prennent un sens totalement d'actualité avec la guerre dans la bande de Gaza, ce génocide, puisque Dire Straits avec The Brothers in Arms évoquait justement leurs frères en Israël qui prenaient les armes à l'époque.
Et on est en 91 et c'est le tour du monde. Le tour du monde, vous êtes la première femme à faire le tour du monde en course. Je me disais, est-ce que c'est pas un peu agaçant quand j'entends, je viens de revoir il y a pas très longtemps une vidéo pour donner des nouvelles de Christophe Lemaître, le sprinteur français, et quand il avait fait une super course, il avait été le premier coureur blanc à passer sous la barre des 10 secondes aux 100 mètres. Et ce titre-là avait vraiment interloqué plein de confrères et consoeurs et même les gens du journal.
C'est raciste. Bah ouais.
Non, c'est pas raciste, puisque quand tu fais.
Distingue quelqu'un par sa couleur de peau, c'est
raciste. Mais sauf
tu cherches le titre.
Non, c'est que la tradition veut que souvent tu dis c'est le premier homme noir, la première femme noire, et tu le fais spontanément, sans qu'il y ait une sorte d'a priori raciste. Mais quand c'est une compétition où habituellement, bah là, c'est pas un blanc qui gagne, on fait ce titre-là et on est un peu gêné. Donc je me dis, quand vous avez fait votre premier tour du monde, vous n'êtes pas dit je suis associée simplement à être une femme, alors que je suis certes une femme, mais je suis un individu.
Oui, en fait, au début, j'avais du mal à répondre à cette question-là quand les journalistes me disaient « Alors, qu'est-ce que ça fait pour une femme ?» Je disais « Mais j'en sais rien, parce que je crois que ça fait pour tout le monde.
Ouais. »
Alors après, en rigolant, je disais « Oui, je suis aussi la première brune aux yeux bleus. »
Oui, voilà. Bien sûr.
Et c'est vrai que, je suis dans cette espèce de tiroir, hein, de la première qui.
Une catégorie.
Bon, une catégorie. Ouais. Une pionnière. Alors après, peut-être tant mieux d'abord parce que je l'ai fait et que j'avais envie de le faire. Mm. Je l'ai pas fait pour ça, mais je me suis rendu compte après que pour beaucoup de femmes, c'était important.
Finalement, oui.
Donc du coup, finalement, j'en suis fière.
Ouais,
et
ouais.
Pourquoi il n'y en a pas eu avant?
Il n'y en a pas eu avant parce que, encore une fois, pendant très longtemps, d'abord, les bateaux étaient très physiques. Ça portait malheur d'avoir des femmes à bord. Et puis, qui va garder les enfants?
Et c'est scientifiquement prouvé que ça porte malheur, les femmes à
bord de bateau. Et qui a gardé les enfants?
Ouais, voilà. Donc, il y avait plein de choses. Et puis, je pense que, dans ma génération, les petites filles, c'est pas, voilà, on leur offrait pas cette possibilité. Mm. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont jamais dit, fais pas ça parce que t'es une fille, ou tu ferais mieux de faire ça parce que t'es une fille.
Et sans mauvais jeu de mots avec parole, est-ce que ça a ouvert des vannes? Est-ce qu'après vous, il y a au contraire beaucoup de navigatrices qui ont été inspirées par votre parcours?
Alors oui, je pense, mais ça a été quand même assez long. Mmh. On voit aujourd'hui, il y a beaucoup de filles, mais il y a aussi le fait que maintenant, il y a beaucoup de courses en double où on oblige, nous on appelle ça les courses Shabada, un homme, une femme. et c'est devenu une obligation pour certaines courses. Et ça permet vraiment...
Il y a des quotas.
Et pourquoi on oblige ces
deux-là? Justement, pour permettre aux jeunes femmes d'émerger, parce qu'il y en a plein qui ont beaucoup de talent, et ça reste quand même un peu compliqué. On continue à dire que les femmes, c'est gnangnan, que les femmes, ça fiche le bazar à bord, qu'elles sont moins costauds, etc.
Bon, non, ça peut faire la cuisine.
Et on voit très bien que
vous allez manger chaud, surtout.
Quand on voit les courses en solitaire, on voit très bien que les filles se débrouillent aussi bien que les garçons. Donc voilà, donc ça progresse, mais c'est lent.
On en parlera avec Alexia tout à l'heure. En 99, Manu Chao. Vous savez qui vous a fait écouter Manu Chao ou à qui vous pensez en écoutant Manu Chao?
Alors moi je pense globalement à l'Amérique du Sud parce que j'y ai pas mal traîné avec mon bateau, je commence à y aller à ce moment-là et voilà, c'est un peu le lien quoi.
Mais 99 Vous avez eu besoin de l'aide de Soldini,
oui.
Le skipper italien Giovanni Soldini, qui vient vous sauver alors que vous venez de prendre part à une course autour du monde en solitaire. Vous êtes dans une situation difficile.
Plus que difficile, le bateau est à l'envers, donc ça ne marche pas bien, un bateau à l'envers. Je peux vous le dire. Hein. Faites pas ça. Hein. Faites pas ça.
Est-ce que vous êtes vu vous mourir à ce moment-là ?
Alors, j'étais le seul bateau où on avait réfléchi avant de partir que ça pouvait arriver, et j'avais tout un tas de dispositifs à bord pour faire en sorte que si ça arrive, je m'en sorte. Et il valait mieux que ça m'arrive à moi, finalement, que
d'autres. Oui, qu'à d'autres. Oui.
Et tous mes petits dispositifs, ils ont marché. Et finalement, quand j'étais à bord du bateau avec Giovanni, on s'est bien amusé. Franchement, c'était... Lui, il avait perdu un équipier un an avant. Donc, il avait le sentiment qu'il avait perdu une vie un jour, mais qu'il avait sauvé une vie un jour. Donc, pour lui, c'était hyper important. Et pour moi, évidemment, aussi, puisqu'il m'en récupérait au milieu du Pacifique.
Mais ça doit créer des liens incroyables.
On est toujours super potes, je confirme.
Oui, j'imagine.
Bah ouais, une maison, deux enfants.
Vous avez arrêté la compétition parce que, justement, il s'est passé ça, ou vous l'aviez décidé avant ?
Je l'avais décidé avant. À la fin du troisième tour du monde, je me suis dit, bon, so what, je fais quoi ? Je me suis dit, ah, c'est quand même bien, j'en fais un quatrième. Mais après, il faudra que je change. Parce qu'il y a plein d'autres choses à faire, j'avais en tête d'autres choses. Je me suis dit, bon, si je fais de la course au large, c'est 120% de mon temps. Donc à un moment donné, il faut que j'arrête ça, parce que sinon, je ne pourrais pas passer
du temps à faire autre chose.
Donc je me suis dit, voilà, le quatrième, mais je me jure que quoi qu'il arrive, après, je ferai autre chose.
En 2009, Isabelle Autissier. Gotham Project. Como se vuelve siempre al amor. Vous parlez espagnol ?
Oui, encore l'Amérique du Sud, j'y ai passé pas mal de temps. Mon bateau, alors pas de course, mais de croisière, a été basé à Ushuaia pendant longtemps. Et j'ai adoré cette dizaine d'années où deux mois par an, j'allais en Patagonie, puis après l'Antarctique.
La différence...
Et donc j'ai un peu appris l'espagnol. Okay.
La différence entre les deux bateaux, ce sont les équipements, les aménagements intérieurs. Certains sont faits pour la bronzette, d'autres pour le sport, c'est ça ?
Oui, c'est sûr que vous n'allez pas aller faire de la balade avec un bateau qui a une quille très profonde, on ne peut pas rentrer dans la moitié des ports, qui n'est absolument pas aménagé.
Alors que les bateaux de compétition ont une quille très profonde ?
Oui, pour aller vite, les monocoques, on a 4,50 m de tirant d'eau, comme on dit, ce qui est énorme. Donc on ne peut pas tellement faire de la balade. Et puis, dans un bateau de course, il n'y a rien. Il n'y a même plus de couchette, hein, c'est juste un pouf dans lequel on se met dans un coin pour essayer de dormir. Donc il n'y a pas de cuisine, il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de salle de bain, etc. Et quand on passe en croisière du temps, on a quand même un peu besoin de ça.
2009, vous prenez la tête de WWF, présidente de cette association qui va vous animer dans tous les combats que vous allez mener. Quel a été le plus grand combat mené et gagné peut-être le temps de votre présidence ?
Il y en a eu beaucoup. Je crois qu'on a beaucoup travaillé sur l'accord de Paris à l'époque. Moi, je me souviens, à la fin des deux semaines, j'avais plus de voix, je pouvais plus parler. et quand même, on a arraché cet accord qui n'est pas parfait et qui est mal appliqué. Mais si on n'avait pas eu ça, ce serait quand même carrément pire, quoi.
Vous avez été remplacée par Monique Barbu, hein, c'est ça ?
Oui, absolument.
C'est toujours une femme ?
Oui, c'est toujours une femme. Maintenant, c'est Alexandra Palt. Pourquoi toujours des femmes ?
Pourquoi des femmes et l'alternance alors,
pour prendre soin de la mère nourricière.
Il n'y aurait que les femmes qui prendraient soin.
Parce que je ne sais pas. Pourquoi ? Voilà. Et vous publiez aussi votre premier roman à cette époque-là. C'est là où vous écrivez, c'est là où vous dégagez du temps pour écrire.
Absolument, ça faisait partie de mes projets. En disant, j'arrête la course au large. Moi, j'ai toujours adoré lire et j'y suis allée, voilà, au début avec une histoire vraie, un roman historique qui était La vie de Kerguelen, parce que moi j'étais passée à côté, j'ai même traversé à pied les îles Kerguelen. Et puis voilà, après je me suis enhardie dans le roman.
Et maintenant la bande dessinée Zelba aux éditions Stock Futuropolis pour la collection Une bouteille à la mer, et c'est Alexia Barrier qui nous a rejoint. Bonjour,
bonjour Alexia.
Merci de venir à ce micro. Skipper donc, que l'on avait à l'époque du Vendée Globe. Quel est donc ce nouveau projet ? Racontez-nous un équipage 100% féminin, c'est une première.
En rentrant du Vendée Globe, j'ai eu envie de me lancer dans un nouveau challenge. J'avais très envie de naviguer en trimaran et il n'y avait pas du tout de représentation féminine sur ce type de bateau. Donc j'ai décidé de faire un équipage 100% féminin international. Il y a un équipage féminin qui a tenté le coup il y a 27 ans avec à sa tête Tracy Edwards. Elles ont dématé au Point Nemo, donc au plein milieu du Pacifique, alors qu'elles étaient en train de battre le record d'Olivier de Kersauzon et c'est bien dommage qu'elles n'aient pas réussi. Et depuis, il y a eu très peu de femmes. En gros, il y a 14 femmes sur tous les équipages, sur 250 marins. Donc il était temps de faire bouger les lignes.
Et c'est pourquoi c'est le manque de sponsors,
c'est le... C'est le manque d'opportunité d'embarquer sur ces bateaux, de se former.
Pardon, manque de sponsors, ça serait au contraire une opportunité formidable pour un sponsor.
Merci,
de dire, non, mais de dire je suis le premier à soutenir cet équipage.
Féminin,
bah oui.
Je pense que c'est un peu un problème structurel.
Appelez L'Oréal, ils vont être ravis.
C'est l'habitude d'inviter toujours les mêmes mecs à faire toujours les mêmes choses et de ne pas ouvrir les portes aux femmes. Moi, j'ai demandé plusieurs fois à embarquer sur des trimarans. On ne m'a jamais donné l'opportunité. Même pour amener des sandwichs.
Oui, mais vous arrivez habillé en vert et en lapin, on vous l'a dit.
C'est pas possible, en fait. Non,
donc c'est en équipage, sans assistance.
Exactement, le trophée Jules Verne. Est,
sans escale.
C'est Florence Artaud et Titouan Lamazou et Mickey aussi qui ont fait les règles. La règle est simple, on prend le bateau de son choix, l'équipage de son choix, et on tente de battre le record autour du monde, sans escale, sans assistance. Au départ, entre l'île d'Ouessant et le Cap Lizard, donc entre la Pointe-Bretagne et l'Angleterre.
Sans assistance, ça ne veut pas dire sans communication. On peut quand même.
Sur le Vendée Globe, ouais. Voilà. On est connecté et on a le droit au routage. C'est-à-dire qu'on est une cellule météo à terre qui nous aide à choisir la meilleure route parce que c'est des bateaux qui vont super vite et on n'a pas toujours le temps de passer 4 heures à la table à cartes, comme on peut le faire en IMOCA, enfin sur les monocoques, à étudier la météo.
Ceux qui gagnent ce genre de compétition, et la question s'adresse à vous Isabelle comme à vous Alexia, sont ceux qui ont le plus de connaissances scientifiques justement, le plus de malice, le plus de chance. Quel est le petit truc en plus qui fait qu'on gagne?
Ça s'appelle l'esprit marin, c'est-à-dire d'abord la qualité de l'observation, de comprendre où on est, de comprendre ce qui se passe.
Oui, mais maintenant on se dit que vous avez tous les mêmes outils, les mêmes personnes.
Instruments très pointus.
Voilà, c'est ça, qui sont à bord, qui font des prévisions, qui disent « va plutôt là parce que le vent sera comme ci, sera comme ça, évite ci, évite ça, là la mer sera trop calme ». Enfin bon, bref, on imagine que les moyens sont exactement les mêmes. Souvent, quand j'ai posé la question à des compétiteurs, par exemple dans le monde du football, il me disait, au niveau de la Coupe du Monde, par exemple, de football, tous les joueurs sont au même niveau physiquement. La seule différence qu'il y a, c'est le mental. C'est celui qui va faire le geste, qui va se permettre de faire le geste, qui va marquer le but, qui fera gagner la Coupe du Monde. Physiquement, en termes de course, de muscles, de capacité, d'endurance...
Même de technique, ils sont pas très loin.
La voile, c'est un sport mécanique, donc c'est une question de moyens déjà, d'avoir les moyens d'avoir un bon bateau, des préparateurs, de la technique,
des ingénieurs.
Il y a de la stratégie aussi.
Et après, ça se joue sur l'eau, évidemment, donc il faut choper la bonne fenêtre météo, donc il y a un petit facteur chance. Le record n'a pas été battu depuis 8 ans. Il y a eu 11 tentatives avec des équipages chevronnés. Ils n'ont pas réussi à battre le record de Francis Joyon qui a été établi en 40 jours et 23 heures. Donc la chance fait un peu partie du jeu. La casse, on rentre en collision avec des objets flottants et malheureusement aussi avec des mammifères marins.
Vous
ne
pouvez pas faire, attention quand vous naviguez.
C'est clair, mais nous on va
même
faire
attention. Même des conteneurs, c'est-à-dire des conteneurs qui tombent des bateaux de marée marchande.
Tout à fait. Donc nous, on travaille avec nos partenaires sur de la tech pour pouvoir identifier tout ce qui flotte, notamment avec Sopra Steria, qui est une société française qui nous aide beaucoup là-dessus. On travaille sur la sécurité et la performance. Et
vous avez tous les sponsors ou pas, là, maintenant?
Pas encore. Il nous manque encore un quart du budget, 500 000 euros.
500 000
euros. Nous, on a un petit budget par rapport aux garçons. On tourne à 2,5 millions d'euros par an, ce qui est un gros budget, mais c'est la voile. Et les
garçons,
autres,
c'est combien?
Ils sont autour de 6-7 millions par an. Donc, on a établi une règle au jour 1 du projet, c'est de baisser les salaires des mecs pour être à égalité avec les femmes. Parce que les femmes en voile en course large, quand on est payé, donc il y a 20% des femmes qui sont payées, et quand on est payé 10% des salaires des hommes. Et ça, c'est
10% des salaires
aussi pour
10% de moins.
Non, des salaires.
10%, en moyenne 10% des salaires des hommes. Ça explique aussi
Excusez-moi, quelqu'un qui est payé 1000, vous avez 100.
Exact. Ouais. Et on nous dit, en nous tapant sur l'épaule, mais t'as de la chance d'être là. Donc il y a encore du boulot.
Mais en même temps, ça, c'est pas mal.
Ça, c'est mon salaire. Je peux payer les Haribo pour les
ouais, c'est ça.
C'est ouf, c'est ouf.
Ouais, c'est ouf.
Oui, là, c'est totalement dingue. Quand on
déjà 10% de moins, c'est un scandale, mais là
quand on parle
90%
du...
de moins.
Oui, déjà, ouais, c'est fou. Déjà.
On parle du dérèglement climatique. Est-ce que vous le constatez dans les épreuves? C'est-à-dire, est-ce que les vents sont plus forts? Est-ce que les vagues sont plus hautes? Et ce dérèglement se ressent dans le Gulf Stream, dans les différents vents que vous rencontrer.
C'est complètement vrai. Les grands courants marins et les grands courants atmosphériques sont complètement impactés par le dérèglement climatique, l'acidification de l'océan aussi. Il y est pour beaucoup et du coup, nous, pour notre terrain de jeu, ça impacte bien l'anticyclone des Açores, l'anticyclone des Saintes-Hélènes, les dépressions dans le sud de l'Indien et du Pacifique qui tournaient un peu comme du papier à musique. Mmh. Aujourd'hui, la musique est déréglée et on a des phénomènes beaucoup plus violents et beaucoup plus soudain et récurrent qui surgissent de nulle part. Donc il faut...
Et du coup, les routes peuvent changer.
Exactement.
Quelle est la date qu'il faut retenir du départ?
Stand-by à partir du 15 novembre cette année.
Très bien. Eh ben, est-ce qu'on dit merde aussi?
On peut
dire merde. Non,
on dit Varek, au Gouémont.
Alexia Barrier. Et voici l'hommage des Mabres.
Bravo.
Bonjour tout le monde. Alors, tous les jours dans cette émission, je rends un hommage et aujourd'hui, j'ai décidé de rendre hommage au bateau, évidemment. Alors, attention, je sais que Tanguy Pastureau va écouter attentivement cette chronique. Malheureusement, je ne parle pas des chaussures bateau. Tanguy, attention. Je parle de cet objet qui permet de flotter sur l'eau et qu'il ne faut surtout pas oublier d'inscrire dans sa déclaration de patrimoine, Nagui. Mais, revenons à l'essentiel, quelle dinguerie, genre, on peut être sur l'eau, c'est Jésus ou quoi? Attends, ça t'arracherait la gueule de rire à une de mes blagues, Daniel, je tire la gueule. Moi, quand tu lis ton post-it à la fin de l'émission, gna gna gna, désolé, je suis désolé. Ça va, tu t'excuses quand même pas autant quand t'as appelé maman par le prénom de ton ex, Daniel. J'adore le bateau. Pardon. Et justement, moi, j'ai un ex qui faisait de la voile. C'était il y a tard, pas longtemps. Il était beaucoup plus vieux que moi, tellement vieux que le gars, il avait été à l'école de voile avec Christophe Colomb, MDR, mais marre-toi, Daniel. C'était un skipper qui venait de quitter sa femme. Il l'a skippé ou quoi, la team? Et il voulait absolument. Merci, Tom. On peut avoir les gens à la pitié. Il voulait absolument m'apprendre à naviguer. Il me disait toujours, tu peux apprendre à une fille canon à faire de la voile, mais tu peux pas apprendre à une fille qui fait de la voile à être canon. Oh. Toujours pas compris, mais je l'ai sucé. Enfin bref, j'ai bien conscience que le bateau, c'est un truc de luxe. Moi, j'ai eu la chance d'en faire beaucoup quand j'étais petite parce que je vivais dans les drômes. Voilà. Et ça m'a marqué à vie, ce sentiment de liberté. Ça a été vraiment, vraiment tellement intense. Bah, en fait, ça m'a fait la même révélation quand j'ai découvert le stimulateur clitoridien. Merci beaucoup Lisa, vraiment merci. Et je parle bien sûr de faire du bateau sur l'océan ou la mer. Hein. L'autre jour, j'ai une copine qui m'a invitée à faire une balade sur la Seine. Oh là là, avec un bateau sans permis, c'était pas fun. On n'était pas du tout dans le même mood. En fait, moi, j'étais là pour me démolir la gueule au rosé. Et elle voulait vraiment apprendre à naviguer, des termes et tout. Elle me disait, Emma, vomis à bâbord. Ok, Célestine. C'est indéfinissable comme sentiment, celui qu'on a quand on est en mer. On a l'impression que ceux qui naviguent, leur peau, elle a le goût, pardon, du sel. On a l'impression que les gens en mer, en fait, ils ont plus de saveur que sur terre. On se sent libre, un peu comme si on échappait à tout. C'est vrai, je veux dire, qui ici n'a jamais trompé son ou sa partenaire sur le pont d'un voilier? oui, Tom, un catamaran, ça compte aussi. Je peux pas parler de la liberté là depuis tout à l'heure sur l'eau sans penser évidemment à celles et ceux qui, à l'heure où je vous parle, ont pris la mer sur des flottilles pour la liberté. Bravo, vraiment bravo et merci à ceux qui ont pris le large il y a quelques jours en direction de Gaza pour aider les civils victimes du génocide. C'est vraiment, vraiment, vraiment à vous qu'on rend hommage aujourd'hui. Bravo et merci de m'avoir écouté.
Bravo! Et ben bonjour!
Sur scène à Paris au Théâtre des Mathurins, c'est le vendredi et 7 à 21h.
Tanguy Pastureau, de quoi vas-tu nous parler dans la prochaine demi-heure?
Je vous parlerai des artistes de stand-up américains, figurez-vous, qui se disputent un peu autour d'une histoire de plateau d'humour en Arabie Saoudite. Je vais vous expliquer. I'm going to tell you.
En français, j'espère. Une bouteille à la mer, Isabelle Autissier et Zelba Sinch et Stock. Vous l'avez portée pendant combien de temps, cette bande dessinée? Parce que
C'est 2 ans. Alors, c'est beaucoup plus de travail, finalement, pour elle que pour moi. Hein, parce que le temps de du dessin.
L'enquête,
bien sûr. Et puis, en fait, moi, j'avais un peu donné les noms des gens, on y est allé ensemble, on a préparé, voilà, on a fait ces interviews, le débrief, et j'avais essayé de lui dire, ben voilà, cette personne-là, ce qu'elle a dit d'important, c'est ça, ça et ça. Et après, c'est quand même à elle de construire le scénario.
Ben, c'est super.
Et c'est vrai que c'est pour ça que la BD, c'est génial, c'est que les images elles-mêmes disent quelque chose. Bien sûr.
Mmh. On en parle jusqu'à 12h30 sur Inter. La bande originale avec Leïla Kadokoudadi. Avec les Adelmatier et Mabo Jean, figurez-vous, Tom Malditi, Oldelaf, Daniel Morin, Thomas Pastureau et notre invité Isabelle Autissier.
Bravo. France Inter, bande originale. Leïla Kadour et Nagui.
Vous avez choisi de rencontrer dans ce périple ceux qui sont concernés mais qui s'y connaissent et qui nous apprennent des choses sur la mer, mais vous avez également choisi de ne pas, pardon, donner que de mauvaises nouvelles. On a le sentiment que chacun se dit, ah, vous n'êtes pas d'accord?
Mais si, ah bon, pardon, je suis parfaitement d'accord.
D'accord.
Non, mais parce sinon, que... on se suicide tout de suite, quoi. Ouais, ouais, un petit délai, quand même.
Non, ou alors on se dit, ça sert à rien de se battre, c'est trop tard, quand on sait qu'il y a dans chaque poisson de la planète, forcément une particule de plastique. On se demande si le combat est encore utile ou si c'est pas trop tard, justement.
Alors, c'est jamais trop tard, parce que le centième de degré qu'on va éviter, ou la petite espèce qu'on va empêcher de disparaître, ben, ça va nous aider. Donc, c'est vrai que...
Comme les coraux qui sont moins colorés, parce que d'abord, ce sont des animaux, les coraux, et pas des plantes au fond de l'eau. Mais c'est vrai qu'ils n'ont plus les couleurs rouge, orange, bleu.
Ils meurent surtout. Et les prévisions, c'est quand même que si l'océan, qui a déjà pris un degré, s'il en prend encore un, c'est 100% des coraux qui meurent. Donc,
ce ne sera pas plus net s'il n'y a pas de coraux qui traînent au fond.
Mais pardon, ça, ceux qui sont les acteurs de ce réchauffement, ceux qui sont, entre guillemets, j'allais dire coupables, je ne sais pas quel autre terme employer, ou conscients en tout cas de ça, ne se disent pas « Oups ».
Eh ben, ils se le disent pas assez visiblement. Alors après, on est tous coupables, j'aime pas ce mot-là, mais responsables.
Mais pardon, responsables, voilà. Merci. Mais on est tous responsables.
Mais on est tous un peu, parce que voilà, je vais pas vous la refaire, mais enfin, comment on se déplace, ce qu'on mange,
est-ce qu'on
va en vacances, on peut tous y réfléchir quand même un peu. Hein.
Croyez-vous à la politique du colibri de se dire il y a un incendie et chaque petite goutte portée par l'oiseau peut éteindre cet incendie?
À partir du moment où on est des milliards d'individus, ça compte quand même. Et puis aussi, c'est nous aussi qui pouvons pousser les entreprises, les gouvernements, en tout cas dans les pays démocratiques, à prendre
notre vote. Et vous le dites, là.
Par notre vote, ouais. Par notre mobilisation. Les ONG comme le WWF et d'autres, on sert aussi à ça. On sert à représenter la voix du public. Donc il faut que les gens nous soutiennent. C'est vrai que moi, si je vais voir un ministre et qui sait qu'il y a 200 000 personnes qui cotisent au WWF, ben, je représente 200 000 personnes. Donc ma voix n'est pas tout à fait la voix de lambda, mais parce que les gens nous soutiennent.
La biologiste Françoise Gayle, vous la rencontrez, le professeur en écologie marine Didier Gascuel, l'ambassadeur des pôles et des océans Olivier Poivre d'Arvor, ou encore la présidente de Sea Shepherd, Lamia Esmiali, sont justement ces rencontres qu'il y a au fur et à mesure qui viennent étayer, éclairer nos rapports à l'océan, à la mer. Est-ce que vous avez appris certaines choses en les rencontrant, ou vous saviez déjà un peu réponses des questions que vous posez?
J'en sais forcément déjà pas mal, puisque d'abord c'était mon métier, et puis qu'en plus je suis mobilisée à travers le WWF depuis très longtemps. Mais en même temps, ce qui est bien, c'est qu'ils mettent vraiment les choses en perspective, parce que eux, ils sont très clairs sur leur sujet, quoi. Didier Gascuel, quand il parle vraiment de la surpêche, il suit les choses, j'allais dire, au jour le jour. Donc il remet les choses en perspective. Donc même à moi, ça fait du bien. Et puis ce qui est bien aussi, c'est que tous ces gens-là, ils agissent. À la fois, ils nous aident à faire le constat, mais aussi là où ils sont, dans leur métier qu'ils font.
Quand on achète un poisson, comment savoir s'il a été pêché par un petit bateau ou un...
C'est obligatoire que votre poissonnier le marque. Vous pouvez lui demander d'ailleurs, mais normalement sur l'étiquette, il y a marqué s'il est pêché au chalut, s'il est pêché à la ligne, c'est obligatoire. Okay. Donc s'il ne le fait pas, vous pouvez lui dire que c'est pas bien.
Est-ce que lui le sait? Parce que lui, il a acheté à Rungis. Non, mais...
Quand on achète en supermarché, si on va pas chez le poissonnier...
Mais bien sûr, mais normalement, dans un étal de supermarché, c'est marqué.
Mais si c'est pas un étal, si c'est déjà sous plastique...
Si c'est un poisson...
C'est déjà mâché.
Non, normalement, c'est marqué.
Normalement,
c'est obligatoire.
L'autre jour, j'ai mangé des crousty bats et l'info n'était pas claire.
Alors, le problème, effectivement, c'est que les bâtonnets, qui sont de la chair lavée,
c'est même pas du poisson.
Alors, on sait même plus ce que c'est. Si ça vient de la mer. mer, mais on ne sait pas trop ce que c'est.
On ne sait pas trop ce que c'est, mais il s'appelle Tanguy Passion. Tanguy Passion. Bravo.
Hier, Daniel Morin était absent. Cette prise massive de Viagra l'a empêché de conduire. Il a une Smart, il ne pouvait plus tenir dans la voiture. Et ça a fait un vide. Un vide qu'on a tous comblé ici en exprimant nos talents. Oldelaf a même invité Aldebert. Il n'y a aucun de ces gens qui portent un nom et un prénom. Ici, c'est un univers parallèle. Nagui. Bref, on a quand même bien ri. Et à la fin de l'émission, Daniel ne nous manquait plus du tout. Leïla a murmuré un peu trop fort la phrase « A-t-on réellement besoin de lui ?» Coïncidence, hier, Adèle Von Red, directrice de France Inter, est venue nous saluer en studio, ce qui n'arrive jamais, précisément le jour où Daniel n'est pas là. Trop de signes s'accumulent pour ne pas y voir une réalité sordide, celle de la fin de la carrière de notre ami, qui aura résisté à 16 charrettes de licenciement et à 3 crises de gouttes avant de laisser sa place. Lundi, il sera remplacé par Marine Saint-Filtre, nom de scène de Marine Le Pen, parce qu'elle a un an et demi à patienter avant sa victoire en mai 27. Donc en attendant, elle se lance dans l'humour. Pourquoi? Parce que tout le monde fait ça. Quand j'étais jeune des humoristes, franchement, il y en avait 10 en tout. Moi, je suis allé en voir qui ne me faisait pas rire, juste parce qu'il n'y avait que ça. J'étais à la campagne, il y avait un spectacle par mois, tu y allais. J'ai vu Didier Gustin et les Vampes et Michel Leeb et je pleurais de rire, pensaient les autres. Bah, pas du tout. Hein, le cinéma, c'était pareil. Il y avait un film par semaine, un samedi soir. On avait envie de sortir avec des copains. On s'est retrouvés devant Madame Bovary avec Isabelle Huppert sur 6 copains. 4 ont mis fin à leur jour pendant la séance. Ils sont tranchés les veines avec des cônes vanifraises. 1h20, ça prend. Hein, après, t'as des traces blanches et roses sur les poignets. On dirait qu'une licorne a tenté de te tuer. Madame Bovary, 7 avril 91, 22h, c'est là qu'a démarré mon mal-être existentiel. Ça m'est servi de leçon, plus jamais je suis sorti. Ensuite, tous les vendredis, j'ai regardé Thalassa. À un moment, je connaissais 1200 sortes de poissons. Grâce à la pollution, il en reste 14. Pas des sortes, des poissons. C'est plus simple. Thalassa, aujourd'hui, ce sera un format court. Clin d'œil à notre invité, professionnalisme joli. Total. Mais en 2025, des humoristes. Mais il y en a des milliers, rien qu'en France, plein de jeunes. Ça, c'est super. Et des vieux qui se sont mis à imiter les jeunes. Ils ont un micro-main, ils sont à moitié couchés sur leur pied de micro pour se donner l'air cool, alors que clairement, ils s'en servent comme d'une béquille. Et pourquoi cette esthétique ? Bah parce qu'on rêve tous d'être des Américains. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a la lumière dans la gueule, être à New York ou Angoulême, c'est pareil. Hein, sauf qu'à New York, les blagues sur Sébastien Lecornu ne font pas rire. À Angoulême non plus d'ailleurs. Parce que ce pauvre monsieur est moins rigolo qu'un bloc de granit. 90% des gens qui actuellement entament une dépression expliquent qu'ils ont juste pensé à Lecornu. Et il paraît qu'il y a une malédiction, si vous prononcez 5 fois Lecornu devant un miroir, vous ne riez plus jamais. Mais bref, il y a cette fascination ici pour les anglo-saxons. Je la comprends, je regarde du stand-up US sur Netflix. Ils ont une telle aisance. On dirait qu'ils sont sur scène comme s'ils étaient dans leur salle de bain. Je suis toujours surpris qu'ils ne se lavent pas les dents. Moi, je suis là dans les loges à me dire, est-ce que le public va m'accepter ? Je tremble, en partie à cause de l'âge et du froid, parce qu'avec la hausse des prix de l'énergie, il n'y a plus une salle qui chauffe les loges. Tu as gratuitement sur tout le corps ce que ta sœur fait en soin du visage chaque matin. Mais les Américains, ils sont à fond. Ils arrivent à la salle, font « Hey, guys !» Il y a des techniciens qui se font tatouer le signe dollar. Les nôtres, si dans le quart d'heure, tu dis pas un truc en faveur du référendum d'initiative populaire, ils t'allument même pas la salle. Et puis les Américains, ils jouent devant des Américains. Je veux dire, ils n'ont pas à se demander s'ils sont chauds. Ils sont chauds naturellement. Rien que pour se saluer, ils hurlent. Hi, Steven, yeah, my friend. Nous, on est là. Bonjour, Tanguy, enchanté. Les Américains, ils sont directs. Nous, la diplomatie, il y a 7 ministres qui se regardent dans le blanc des yeux en attendant le go d'Ursula von der Leyen. Trump, son côté basique, là, c'est son atout. Il attrape Netanyahou. Un coup de fil au Qatar. L'autre présente ses excuses. Pendant ce temps, il envoie des emojis cœurs aux émirs. Macron n'aurait pas le temps de cuire une tarte aux fraises qui sont déjà en train de rédiger les contrats de reconstruction. Et seulement les Américains, voilà le problème, c'est que ce ne sont pas de belles personnes. They are fucking fuckers, man. Je vous explique, j'ai lu des articles, il y a une polémique aux États-Unis parce que de grosses stars de l'humour, Dave Chappelle, Louis C.K., Kevin Hart, Bill Burr, comment vous expliquer ? Vous voyez Patrick Bosso ? Bon, bah, c'est pareil, mais sans l'accent. Et puis, les vannes sont différentes. Donc, ces gens ont participé au Riyad Comedy Club en Arabie Saoudite contre un chèque de 17 mètres de long. Pourquoi pas ? Hein, comme je le dis souvent, prends l'argent, frère, parce que la vie nous a pas fait de cadeau. Je sais pas si c'est moi qui dis ça ou la Funky Family en 2001. Mais bref, en tant qu'humoriste, nous, on n'a pas le droit de profiter comme les rappeurs. On doit avoir des valeurs. Et Chappelle, C.K., les autres, sont accusés par d'autres stand-uppers de s'être vendus à un régime problématique sur les droits LGBT. Bon, ok, oui, régime qui a assassiné des journalistes, bon, d'accord, qui soumet des gens. Bon, bref, on est loin de l'esprit de la patte patrouille. À Atsuko Okatsuka, autre humoriste invité au Riyad Festival, qui lui a refusé d'y aller, révèle qu'on lui avait interdit tout propos susceptible
de dégrader, diffamer, mépriser, embarrasser ou ridiculiser le gouvernement saoudien. Donc bah, voilà, j'ai envie de dire aux Saoudiens, ne faites pas de festival de stand-up, les gars, partez sur des collages de gommettes. Allez, les blagues de sexe, je pense que c'est compliqué aussi. Comme thème, en fait, il reste juste le temps qu'il fait. En plus, à Riyad, c'est vite fait, il fait chaud. Hein, David Cross, autre artiste de stand-up, écrit « Je suis dégoûté que des gens que j'admire ferment les yeux sur ce totalitarisme. Pourquoi une quatrième maison, un bateau ou des baskets ?» Voilà. Des baskets, ok. Enfin, un bateau. Hein. Bon, bref, Lisa, Emma, Tom, Hold, Daniel, c'est une jolie carrière, Daniel. Mon conseil, si l'Arabie Saoudite vont faire un pont d'or, ou plus probablement que la région Nouvelle-Aquitaine vous propose 150 euros. Dites non, parce que nous restons français ou belges. Bref, on ne nous achète pas, nous. On
est plus. Merci, Tanguy Pastureau.
Tanguy Pastureau, en attendant qu'il va prendre un gros chèque à Vars, Allières et Risset, c'est près de Grenoble. Et ce sera le 11 octobre.
Une bouteille à la mer, publiée chez Stock Collection, Futuropolis, avec Zelba pour le dessin, Isabelle Autissier pour l'écriture. Cette bande dessinée qui est à la fois divertissante, parce qu'elle se moque beaucoup de vous. Elle vous réduit même en poupée, en pantin, elle vous
en
met dans son sac.
Même. En caniche. Je suis très bien en caniche rose.
C'est vrai. Ça me fait penser que nous avons tous un ruban rose aujourd'hui pour Octobre Rose, voilà, pour l'enchaînement et le dépistage du cancer
c'est
du sein.
C'est important de vous faire dépister, mesdames et messieurs, de vous
quel que soit l'âge,
absolument, parce que c'est un cancer qui se soigne très bien, mais si on peut le prévenir, c'est encore mieux.
Ça se soigne mieux.
Et oui.
Isabelle Autissier a publié un roman le 7 mai qui s'appelle La fille du grand hiver aux éditions Paulsen. D'autres événements
culturels.
Oui,
absolument. On va à Varsovie, la capitale polonaise, qui a rejoint le club pour le moment assez fermé des villes comme Londres ou encore New York qui ont équipé leur métro de quoi ?
La Wi-Fi ?
Non.
De parfum ?
De musique ?
Non plus.
De prise ?
De sécurité,
de
caméra,
d'une alerte.
J'ai les droits.
Qu'est-ce que vous allez pouvoir trouver dans
parfum,
le métro de Varsovie, qui va absolument une bibliothèque souterraine, 16 000 ouvrages dispo pour le prêt. Il y a deux espaces de lecture si vous voulez vraiment y rester, parce que la réalité c'est qu'ils voulaient installer dans ce quartier au-dessus, donc sur la terre, une bibliothèque, mais il n'y avait plus assez d'espace. En revanche, dans le métro, avec plein de boutiques qui ferment et plein d'espaces vacants, ils se sont dit pourquoi ne pas faire justement la bibliothèque sous terre, et en plus ça va permettre aux usagers d'y passer plus facilement, et il y a un distributeur en libre service 24 heures sur 24 pour emprunter les livres que vous voulez. L'idée c'est d'encourager à lire davantage, bien entendu. En Pologne, en 2024, 41% des personnes sondées ont lu au moins un livre par an. La lecture se perd progressivement dans plein d'endroits du monde, bien sûr. En France, il y a aussi quelques opérations qui permettent de trouver des livres près de chez vous. Il y a les boîtes à livres dans les rues, bien entendu. La SNCF, certaines gares sont équipées avec des boîtes à livres. Vous pouvez en prendre, vous pouvez en laisser aussi, parce que c'est un peu le principe. Vous pouvez en voler, bien sûr, Daniel, voilà, s'il vous plaît.
Oui.
Mais c'est pas mal de se dire qu'on peut abandonner un livre une fois qu'on l'a rencontré, et puis il va faire son chemin, quitte à marquer peut-être un petit mot dans le livre pour le prochain. On peut créer un petit lien comme ça. Pour vous dire aussi que ce week-end, il y a l'opération Bibliothèque en folie. Il y a plein de bibliothèques à Paris, mais partout en France aussi, qui vous ouvrent leurs portes, où vous allez pouvoir assister à des performances, à des lectures, à des rencontres, à plein d'activités. L'idée, c'est de dire qu'il y a des bibliothèques partout autour de chez nous. Ouais. Vous n'êtes pas obligé d'acheter les livres si vous n'en avez pas les moyens. Vous pouvez faire d'autres rencontres livresques que dans votre librairie. J'en parle d'autant plus de cette opération Bibli en folie parce que j'ai la chance d'être la marraine de l'opération avec Augustin Trapenard. On essaye de vous inviter à prendre des livres. J'ai cru comprendre, Isabelle Autissier, que dans la maison familiale, vous écrivez, mais non seulement, mais dans la maison familiale, il y avait plus de 20 000 livres. Wow. C'est vrai ça, hein ?
Ouais, parce qu'on habitait en tribu, on était 12 à la maison, donc c'était une très grande maison et on était tous des fous de lecture.
Des gros lecteurs.
Des gros lecteurs et mes grands-mères avaient accumulé pendant toute leur vie.
Quand 20 000
quand il a fallu vider cette maison, ça nous a pris 2 ans et demi. Et entre autres, les livres, c'est vrai qu'on ne savait plus quoi en faire.
Et qu'est-ce qu'on fait de ces livres ?
Alors, on en a donné énormément. On en a mis dans les fameuses boîtes à livres, mais à la limite, on pouvait les saturer pendant des semaines et des semaines. On en a récupéré un peu. Honnêtement, il y en a qu'on a balancé parce qu'il y avait quelques bondieuteries, si j'ose dire, qui étaient un peu restées sur le bord de l'étagère.
Oui.
plus, ils sentaient un peu le moisi.
Oui, ils n'ont pas été ouverts souvent.
Donc, voilà.
Comment vous êtes tombée dans la lecture, vous, Isabelle Autissier? À quoi ça tient de tomber dans la lecture?
Je pense que c'est très familial. Hein. Mmh. Moi, on m'a tout de suite, quand j'étais petite, mis des livres dans les mains. Au début, mes grands-mères qui racontaient des histoires, qui lisaient des histoires après moi. Et puis, voilà, je suis aussi d'une génération où il n'y avait pas Internet, figurez-vous, il n'y avait pas d'ordinateur. Et il y avait un peu de télévision et pas beaucoup. Et donc, on lisait.
Et donc, vous lisez et puis vous écrivez. Autre question, on va à Nice, où le maire de la ville, Christian Estrosi, a annoncé sa volonté de baptiser le futur hôtel des polices, la place, en tout cas devant. Ouais. D'après vous, quel
Nicolas
nom
Nicolas Sarkozy. Sarkozy.
Absolument, Nicolas Sarkozy. Quelques jours après la condamnation de l'ancien président de la République, c'est une bonne réponse collective des garçons. Après donc, la condamnation de l'ancien président de la République, cette décision de l'édile fait vraiment polémique. Pour les opposants politiques du maire sur place, le nom de Robert Badinter aurait été un peu mieux apprécié, vraisemblablement. Vous avez donné votre nom à quoi, vous, Isabelle Autissier?
Alors, je suis très fière, il y a des écoles, il y a trois écoles, il y a un collège, et assez prochainement, une salle de sport, pas loin d'ici, à Vincennes. Voilà, donc...
On vous compte, comment ça marche quand une école, on vous contacte, parce que...
Les gens m'écrivent, en fait, me contactent, puisque faut quand même que je sois d'accord.
Bah oui.
Je pourrais dire non, éventuellement.
Pourquoi?
Mais c'est toujours des belles rencontres, c'est toujours des moments sympas, d'aller... je me souviens, il y a eu un collège à côté de Nantes, et je suis arrivée, c'était quelques jours après le déclenchement de la guerre en Ukraine, où on parlait des enfants qui allaient dans le métro pour continuer à étudier, et je parlais de ça avec les jeunes, je leur disais, mais vous rendez compte de la chance que vous avez, quoi. Mmh. Vous pouvez avoir une école, étudier en paix et pas avoir de bombes.
Ça veut dire que vous êtes là à la fête de fin d'année, dans tous les établissements, vous faites la tournée en tant que... ça porte une responsabilité aussi, quand même. C'est quoi l'engagement
Alors, en général, les écoles ou les collèges continuent à m'écrire, à me donner des nouvelles.
Vous envoyez des poches de bonbons et... Voilà.
Donc c'est un peu difficile de faire la tournée à chaque fois, parce qu'il commence à y en avoir, mais...
Il y a un bateau aussi à votre nom.
Oui, absolument. Il y a un bateau à voile qui fait la navette en Bretagne Sud. Maintenant, vous pouvez aller, par exemple, à Belle-Île.
On peut monter sur Isabelle
au lieu d'y aller avec un bateau à moteur. Donc c'est génial. C'est pas mal.
Ça raccroche avec une bouteille à la mer.
2025, on revient à Nice, a été l'année de la mer et de cette réunion des grands de ce monde. Est-ce que ça a servi à quelque chose, tout ça?
Alors, d'abord, ça sert toujours à parler de la mer et de l'océan. Donc ça, c'est bien, parce qu'on n'en parle pas assez, on ne se rend pas compte ni de ce qui se passe, ni des solutions. Après, la grand-messe par elle-même, les chefs d'État et tout ça, faut pas trop en attendre. C'est bien de les mobiliser, on rédige un joli texte. Celui-là, il n'était pas contraignant. Donc après, chacun fera un peu ce qu'il voudra. Par contre, ce qui est bien, c'est que sur place, on a tout le monde sous la main et qu'on peut monter des coalitions sur des sujets précis. Nous, par exemple, au WWF, on a travaillé sur la posidonie, les herbes en Méditerranée qui sont extrêmement importantes à protéger. On arrive à mettre ensemble des pays du pourtour de la Méditerranée, éventuellement des financeurs, évidemment, et à démarrer des programmes précis. Donc, c'est des moments où on a tout le monde sous la main et on peut monter des programmes.
Vous êtes optimiste ?
Moi, je suis ni l'un ni l'autre. On me demande souvent est-ce que vous êtes optimiste, pessimiste. Moi, je fonce, j'avance. Je me dis qu'il n'y a pas d'autre solution que de se battre. Je ne sais pas, je n'ai pas de boule de cristal. Je ne peux pas vous dire dans 10 ans, dans 20 ans où on en sera. Ce sera peut-être la cata totale.
Mais en tout cas, c'est le moment de se bouger. En tout cas,
c'est le moment de se bouger. Et puis moi, quand je me regarde dans la glace, je me dis qu'au moins moi, j'essaye, ça va un petit peu mieux.
Le roman, donc, je l'ai dit, vous l'avez publié en mai dernier, il s'appelle « La fille du grand hiver ». Vous êtes déjà plongé dans une nouvelle histoire?
Ça commence, je commence à y réfléchir. Mais chut. Je vais rien dire, même sous la torture.
C'est pas l'adresse.
Daniel,
ça dépend.
Hein. Il a 5 minutes à tuer.
Pourquoi pas?
Mais je reviens à ce que je vous ai demandé tout à l'heure. Il n'y a pas eu une information que vous ayez apprise de ces rencontres?
Apprise, que vous en sachiez
beaucoup, oui, mais il n'y a pas eu une.
Non, je peux pas. Après, encore une fois, c'est aussi des façons.
Parce que c'est rempli d'informations.
C'est rempli d'informations.
Incroyable. Incroyable. C'est une densité passionnante.
On a essayé
ça
de faire
être un roman. Je comprends l'utilisation de la bande dessinée pour démocratiser, que ce soit plus léger, plus moins
anxiogène. Un petit dessin remplace parfois un grand texte. Donc ça, c'est bien.
C'est une belle association toutes les deux avec.
C'est bien amusé avec Zelba.
En tout cas, ça, en le lisant, on a cette sensation-là. Et puis, elle avait moins de connaissances. connaissances peut-être sur les sujets que vous, forcément.
Oui, d'abord, je lui ai donné 200 pages à lire, donc elle a crié, oh là là.
C'est pour ça qu'on donne vos noms aux écoles, Isabelle Autissier. Voilà. Si vous
mais après, par exemple, c'est elle aussi qui a eu l'idée de faire ce qu'elle appelle les injections de beauté, c'est-à-dire
c'est
que
quoi, ça
de temps en temps, dans la BD, il y a une double page avec une belle, un beau moment, un peu poétique, un peu sympa, un peu... Et là, on reprend un peu de respiration.
Respire,
ouais.
Des excuses à présenter, Daniel.
Mais tellement. Désolé déjà pour Monsieur Cadour. Voilà, Monsieur Cadour qui a compris que le sable, le soleil, le bruit des vagues, le monoeil, le bonheur, quoi, ce serait pas pour lui. La vie, pas de mer, pas d'océan pour les vacances, ce sera Poitiers ou Angoulême.
C'est trop bien.
Pauvre Jean-Claude. Désolé pour notre invitée Isabelle Autissier qui ne savait pas où manger à midi et qui va, sur invitation de Nagui, découvrir la cantine de Radio France. Ah ouais, au programme ce midi, j'ai jeté un œil. Gratin de poisson composé de dorade, de colin et de plastoc, salade d'étoiles de mer, sauce mouette mazoutée, le tout arrosé de jus d'algues. Vous allez vous régaler. Désolé enfin pour les U de fuir et de fuite, notamment, qui n'ont pas été prononcés, qui ne sont jamais prononcés d'ailleurs par Lisa Delmoitier.
Assassinée.
Pauvre Lisa. Bon allez, je t'emmène déjeuner, on va manger du poisson, on va manger de la truite.
Les océans sont malades de la pollution, du plastique, vous l'avez dit, des pesticides, des métaux lourds aussi, des rejets de l'agriculture, de l'industrie, bref, de l'action de l'humain. Donc c'est à nous d'être conscients, sans montrer du doigt les uns ou les autres, trop facile d'accuser son voisin, mais de se dire déjà soi-même à son niveau, qu'est-ce que l'on peut faire pour éviter par notre consommation, par notre mode de vie, qu'est-ce que l'on peut faire pour lever un tout petit peu le pied et éviter que le plus grave arrive. C'est la malice et l'intelligence et le divertissement de cette bande dessinée Une bouteille à la mer. Merci Isabelle Autissier d'avoir été notre invitée.
Merci,
portez-vous bien.
Merci
demain,
beaucoup.
C'est Camille Razat et Mélanie Douté qui seront nos invités.